bienvenue dans le podcast Business Club, le podcast du business sportif, marketing, opérations de com, entrepreneuriat. Nous allons passer en revue toutes les opérations de nos invités dans cette industrie. Athlètes en activité, sportifs reconvertis, chefs d'entreprise et toute personnalité gravitant autour de l'univers du sport business. Bonjour à tous, aujourd'hui nouvel épisode du Business Club et on accueille Benoît Guillard, fondateur de l'agence NDK et gérant du magasin Les Artisans du Running. Bonjour Benoît, comment tu vas ?
Ça va très bien, et toi ?
Ça va super, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es le gérant du magasin de running à Marny-les-Compiègne, Les Artisans du Running, fondé il y a à peu près 17 ans, fondateur de l'agence NDK. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours jusqu'à présent ?
Ouais, bien sûr, carrément. On va dire que le point de démarrage de tout ça, c'est l'athlé, c'est le sport déjà, globalement, puis c'est l'athlé aussi. C'est vraiment le sport qui a guidé tout le reste du parcours. Déjà comme pratiquant, voilà, athlète, globalement, au niveau national, bon niveau, sans plus que ça. Mais grosse passion là-dedans, et puis un environnement familial super dédié à ce sport. Je termine mes études, passionné de l'univers des marques, du matériel, etc. Je me dis, ça doit être trop bien d'ouvrir un magasin. Okay. Dans quelle ville ? Compiègne, parce que je suis né là-bas et que c'est entre guillemets la plus grosse ville du département. Et mon étude de marché, elle s'est à peu près résumée à ça. Tu vois, c'était assez simple. J'avais 23 ans et je l'ai ouvert assez vite parce qu'à cette époque-là, c'était encore possible. Donc, magasin compliqué parce que pas beaucoup d'expérience. Il a fallu un peu se construire tout seul. Voilà. Au bout de 3-4 ans, j'ai commencé à travailler comme salarié à côté pour une marque, comme commercial. Donc j'avais un vendeur en magasin, donc j'ai décidé d'être un peu sur les deux tableaux, enfin complètement sur les deux tableaux même, de gérer à distance et puis de me développer moi dans un projet de commercial qui m'a toujours attiré. Et en gros, l'ouverture de magasin, c'était un peu dans ce but, en réalité. Donc une marque qui s'appelait Zamst, une marque japonaise de produits de protection pour les articulations, pour les sportifs. Je suis rentré ensuite chez Hammer Sport pour la marque Suunto et Salomon. Je suis resté 3 ans, donc là, une envergure un petit peu plus importante. Toujours comme commercial. J'ai fait un court passage dans une marque suisse qui s'appelle On Running.
Okay.
Et puis derrière, j'ai évolué sur un poste de management comme chef des ventes pour une marque de nutrition qui s'appelle Stimium. C'est une expérience qui a duré un an et demi, qui était hyper intéressante parce que nouvelle pour moi, plus le management. Donc là, la construction quasi complète d'un business model, des conditions commerciales, etc. Donc c'était tout autre chose, c'était super intéressant. Et puis à l'issue de cette expérience-là, donc le magasin continue d'évoluer. Il y a eu des déménagements, des évolutions, des changements de nom. On a fait évoluer un petit peu le projet. Et puis depuis maintenant bientôt 4 ans, j'ai créé l'agence NDK donc pour travailler un petit peu comme ce que je faisais avant, mais de manière indépendante.
Ok.
Voilà.
Okay. Et est-ce que tes études étaient liées à ton activité aujourd'hui ? Et comment tu as allié aussi le sport au niveau national et justement la poursuite de tes études ?
J'ai vraiment guidé les études plus pour mon sport. C'est-à-dire que j'ai fait un cursus, j'ai un DUT en gestion d'entreprise et administration, mais que j'ai passé en 3 ans au lieu de 2. C'était un cursus pour sportifs de haut niveau, je mets des guillemets parce que je ne considère pas que j'étais à haut niveau en réalité. Mais par contre, ça m'a permis de m'entraîner, de me consacrer à mon sport et ça, c'était vraiment super. Donc j'ai concilié les deux, j'ai surtout concilié l'athlé et puis j'ai fait mes études à côté. Okay. Donc mes études n'ont pas guidé ce que j'ai fait après.
Okay.
Honnêtement, non. Je suis parti vraiment de... J'ai tout fabriqué vraiment tout seul, quoi. C'est-à-dire que j'avais pas des masses d'idées de ce que ça allait être en réalité. Et je pense que si je l'avais su, je l'aurais peut-être pas fait. Okay. Tu vois, avec du recul. Parce que c'était un sacré projet. Donc il y avait une forme d'insouciance. Qui, je pense, m'a aidé à aller au bout du truc. Et voilà, je ne le conseille pas forcément à tout le monde.
D'accord.
Parce que ce n'était pas le chemin le plus simple. Mais voilà, par contre, c'est un super apprentissage, quoi.
Et du coup, tu as dit aussi que tu as fondé l'agence il y a 4 ans. Pourquoi cette volonté entrepreneuriale ?
Parce que j'ai l'impression que c'est dans ce format-là que je suis le meilleur. C'est-à-dire que J'ai ma petite personnalité aussi, si tu veux. Donc, okay. Du coup, le côté hiérarchie, une stratégie très cadrée dans laquelle tu ne peux pas trop sortir, je ne sais pas si ça me correspond bien. Donc le fait d'être indépendant et d'être ton propre patron, tu connais les problématiques, tu peux t'en prendre à personne d'autre qu'à toi, ça me correspond bien. Et puis ben, quand tu es agent commercial, ben, l'objectif de la marque et le tien, il est le même, il est que ça se développe, que ça progresse. Et j'aime ça, quoi. Les côtés reporting, voilà, très cadrés d'un poste de salarié, j'en ai fait un petit peu le tour et ça me correspond moins.
Okay.
Ça me correspond moins.
Mais justement, quand tu fais le comparatif entre les deux, le statut de salarié et cette volonté entrepreneuriale, quels avantages et quels inconvénients, au final, on retrouve dans ces deux modèles ?
Bah, l'inconvénient, je te dirais que tu as un peu moins la sécurité. C'est sûr, parce que tu dois te porter toi-même. Donc voilà, ça c'est pareil, il faut que ton caractère colle avec ce mode de fonctionnement. Par contre, les avantages, c'est que tu peux gérer complètement ton temps. C'est-à-dire que là, le fait d'être en double casquette comme ça, si j'ai un besoin d'être au magasin parce qu'il y a une urgence, quelque chose à gérer, je peux le faire sans avoir à rendre de compte particulièrement aux marques avec lesquelles je travaille. Si je suis salarié, c'est déjà plus compliqué. Ouais, donc si je suis salarié, c'est déjà plus compliqué. Et puis, tu peux travailler avec plusieurs marques. Quand tu es salarié, voilà, tu as un employeur, tu travailles pour cette marque-là, tu la représentes à 200% sur un temps imparti, quoi, on va dire, délimité. Là, moi, le fait d'être indépendant, ça me permet de travailler avec plusieurs marques. Donc moi, j'y vois un bénéfice parce que c'est plus complet. Ça te permet aussi d'être sur plusieurs canaux de distribution, de ne pas forcément te limiter que au running, si c'est le running ta spécialité, et de voir aussi d'autres domaines.
Univers, ouais. Du coup, tu as fondé l'agence NDK, je le redis encore, qui est basée sur trois piliers. Est-ce que tu peux nous parler de ces piliers ?
Ouais, l'idée de départ, c'est d'avoir un aspect commercial, qui est l'aspect numéro un, parce que c'est ce que je maîtrise le plus. Mais au travers du magasin, j'ai vraiment... activer la partie marketing, communication aussi, à destination des consommateurs, donc comment communiquer au mieux. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer à des magasins un accompagnement aussi dans leur communication, au travers de leurs réseaux sociaux par exemple, des petits tips, des petits conseils comme ça qui permettent de communiquer mieux, de toucher plus une cible un petit peu plus large, et puis aussi pour potentiellement les marques. Voilà, les aider dans des plans de communication ciblés sur des secteurs, sur le mien en l'occurrence. Moi, je suis sur un quart nord-est, donc sur des missions un peu ponctuelles. Puis le troisième pilier, c'est la partie événementielle, parce que c'est aussi quelque chose que j'adore. J'ai créé une course que j'organise moi en local par rapport au magasin, mais potentiellement, c'est des choses qui peuvent intéresser aussi des marques ou des magasins qui, eux, s'en sentent pas forcément trop les moyens ou le potentiel, de les aider là-dedans. Voilà. C'est des piliers que je développe un petit peu plus rarement, on va dire. Mais en tout cas, c'est l'idée globale du projet NDK, quoi.
Ok. Donc du coup, ces piliers, ils sont indépendants les uns des autres. C'est pas forcément une offre en 360 par rapport à ces trois piliers.
L'idée, c'est que ça le soit. À date, là, non, pas forcément, parce que je te dis, il y a eu la période de Covid, il y a eu tout ça, donc ça a été très, très centré sur le commercial. Mais c'est là, en fait. C'est prêt à être activé à tout moment. Et ça l'a été sur des choses assez ponctuelles, mais jamais à une envergure très importante. Mais je pense que c'est lié quand même, malgré tout.
Okay. Aujourd'hui, tu es distributeur aussi pour Diadora, pour BV Sport, Damar, Sport sur le quart nord-est de la France. Déjà, qu'est-ce que ça signifie concrètement ?
Mais en gros, le contrat qui me lie à ces marques, c'est la représentation de leur gamme, de leur nouveauté. C'est d'assurer le lien, l'échange entre le magasin et la marque. Donc c'est un rôle un peu de passerelle entre les deux. Et du coup, d'être au contact et de les accompagner, donc dans la distribution des produits, dans le réassort, dans les SAV si besoin, dans les problématiques, toutes les problématiques qu'un magasin peut rencontrer avec la marque. Voilà, on est l'interlocuteur privilégié qui fait le lien entre les deux. Voilà. Donc pour chacune des marques que tu as citées, le cadre, il est limité sur ça. Il y a une nouveauté, il faut que tu en fasses la promotion, on passe en magasin et le rôle est, mon rôle, il est là.
Justement, à quel type de problématique tu es confronté plus en détail généralement ?
Ben là le problème du moment, c'est un peu les livraisons. Okay. Tu vois, il y a eu toutes les problématiques de confinement du Vietnam, qui est un gros fabricant de chaussures. Pour quasiment 80% des chaussures dans le monde sont fabriquées là-bas. Donc en 2021, ils ont été confinés 8-9 mois, je crois. Donc en fait, il y a eu un embout, enfin il y a eu une pénurie de chaussures. Et puis derrière, quand ça a reproduit, il y a eu un peu embouteillage. Donc les magasins ont été très mal livrés globalement par quasi toutes les marques, sauf celles qui fabriquent en Chine, qui ont été moins impactées par ça. Donc bah là, c'est plus. Alors pour BV Sport, par exemple, qui est une marque française qui fabrique en France, on n'a pas eu ce problème du tout. Donc ça, c'est cool. Pour les autres, ça l'a été un petit peu plus. Donc un magasin qui dit bah, il y a trop de retard, je veux annuler. Donc il faut faire savoir à la marque qu'il y a des modifications de ce genre qui sont faites dans les livraisons, dans les cadencements, dans tout ça. Donc il y a toujours des sollicitations, pas quotidiennes, pas avec tous les magasins, mais en tout cas toujours des petites problématiques qui sont ciblées pour chacun de ces magasins-là. Donc il faut que tu saches les gérer, les résoudre, trouver des solutions, des aménagements. Donc la marque a besoin de ça. Tu vois, s'ils sont trop à distance, c'est plus compliqué pour eux de gérer ces sujets.
Donc est-ce que... pour éviter peut-être ce genre de problématique ou pas forcément, tu vas privilégier peut-être des clients français ou comme BV Sport par exemple.
Des marques françaises. Ouais, idéalement, ouais. Idéalement, après des marques françaises qui fabriquent en France, il n'y en a pas non plus énormément dans mon secteur, quoi. Donc bah, je suis très content de bosser avec BV pour ça. Ça, c'est vraiment une richesse. J'aimerais que les magasins mettent plus l'accent sur ça en prenant en compte ce facteur-là qui est pour moi un facteur très très important pour des boutiques spécialisées. Mais c'est pas un critère de choix, je peux pas me limiter qu'à ça parce que je te dis, il y a trop peu de choix en réalité. Malheureusement, pour l'instant, je pense que ça va bouger. Mais pour l'instant, à date, Mondiadora c'est italien, donc on reste en Europe. Damar c'est une marque française qui produit pas en France, mais qui est quand même bien installée, qui fait partie du patrimoine français. Donc ça, c'est cool aussi. Et puis je travaille avec une marque plutôt spécialisée dans le basket là dernièrement depuis le mois de décembre, et c'est une marque chinoise, donc là on est sur une autre approche. Mais la Chine, je te dis, a pas été trop impactée par ces problèmes de fabrication, donc il n'y a pas eu trop de soucis, mais c'est un facteur à prendre en compte. Okay. Ça c'est clair.
Et comment tu fais justement pour aller cibler d'autres marchés comme tu l'as dit?
Ben, là c'est plus à l'opportunité. L'exemple de Peak par exemple, c'est assez parlant. Moi, comme je te dis, l'athlé, c'est vraiment mon sport numéro un, pratiqué depuis toujours, coaché, tout ça. Enfin, ça fait partie de mon ADN. Mais à côté, je suis passionné de basket, plus en tant que spectateur, quoi.
Okay.
La NBA, etc. C'est un univers qui me plaît beaucoup. Donc, quand il y a eu cette opportunité-là, ça a fait tilt pour moi, parce qu'à un côté, c'est mon métier, mais c'est aussi ma passion. Enfin, moi, le métier de commercial, j'ai pas vraiment l'impression de travailler, quoi. C'est quelque chose qui me plaît, donc c'est assez grisant. Mais j'ai toujours parlé essentiellement de running, d'athlé globalement, un petit peu de sport outdoor. Et là, le fait de parler basket, pour moi, c'est cool. C'est moi, c'est encore moins du travail, quoi. Donc ça se fait comme ça. Après, il n'y avait pas forcément une stratégie, c'est-à-dire que les gens qui me connaissent savent que j'ai plutôt une étiquette running qui est collée, et puis par la force des choses, parce que ça fait 17 ans que je suis dans cet univers-là. Donc c'est assez logique, mais c'est intéressant d'aller voir autre chose.
Comme tu l'as dit, tu as cette étiquette running. Comment, juste, on parlait un peu de la crise du Covid tout à l'heure, comment ça a impacté ton activité?
Bah, ça l'a impacté parce que le magasin a dû fermer. Donc forcément, ça c'était assez stressant. On ne savait pas trop où on allait aller. Donc dans les premiers temps, ça a été assez angoissant, cette partie-là. Après, nos clients, on va dire les plus proches, ont quand même montré beaucoup de soutien pour nous. Ils nous ont quand même fait travailler au maximum. On a trouvé un peu de click and collect, des petites solutions d'adaptation qui ont fait qu'on a quand même un petit peu travaillé. Il y a eu les aides de l'État, etc. Donc ça nous a permis d'avoir une bonne bouffée d'air frais. Par contre, quand on a réouvert, à chaque fois, il y a eu toute une vague de retour de nos clients et puis aussi de nouveaux clients. Des gens qui se sont mis à la course à pied parce que ils ont tellement été enfermés que je pense qu'ils ont eu un besoin de sortir, de marcher, de courir. Donc il y a eu beaucoup de néo-runners, on va dire, des gens qui s'y sont mis. Okay. Et qui sont venus en magasin SP parce qu'il y avait toute cette vague de « il faut soutenir nos commerces locaux », etc. Donc on l'a vraiment ressenti comme ça. Donc il y a eu vraiment des hauts et des bas, quoi. Ça a été à la fois très angoissant, après très rassurant. Et puis bah, là derrière, on gère d'autres problématiques qui sont plus logistiques sur ces livraisons, etc. Ça complique un petit peu les choses. Mais globalement, les magasins, dans le cadre du running, en tout cas, ça s'est globalement plutôt pas mal passé. Après, il y a eu des victimes de tout ça, des magasins pour qui c'était un peu trop juste et qui n'ont pas réouvert ou fermé depuis. Voilà, ça n'a pas été une période très très simple, Ouais, après coup, il a fallu gérer, être un peu agile, s'adapter un peu à tout ça. Dans mon cas, moi personnellement, ça s'est plutôt bien passé.
Ouais, tu t'en es bien sorti, par
ouais, ça a été. Ouais.
Mais justement, post-Covid, on va dire que le running se porte bien. Et de plus en plus, même de Français pratiquent ouais. le running, etc. Comment ça s'impacte directement sur les ventes, dans ton point de vente et par rapport aux marques?
Je te dirais qu'il y a eu une sorte de mise à jour des pratiquants. Il y a des personnes qui étaient des coureurs réguliers, qui avaient plein de courses prévues dans la période du Covid, qui ont été annulées. Des gens qui ont été un petit peu écœurés, je pense, par tout ça. Qui ont un peu lâché l'affaire, qui sont un petit peu mis à distance, qui ont un peu arrêté, qui reprennent tranquillement, mais ça les a un peu écœurés. Par contre, beaucoup de gens qui s'y sont mis, comme je te disais, eux, ce qui est intéressant, c'est que leur choix, ça a été de dire, moi, j'ai couru avec ce que j'avais sous la main comme chaussure. C'était pas bon, j'ai eu mal. Et leur réflexe a été de venir dans des boutiques spécialisées. Donc ça, c'est cool, parce que par le passé, c'était pas forcément le cas. Quelqu'un qui commençait la course à pied, passer dans une grande surface, Décathlon, etc., prendre quelque chose de pas trop cher pour voir si ça allait plaire. Puis après, si ça plaît, on passe à l'étape 2, qui est plutôt le magasin spécialiste. Et là, les gens qui s'y sont mis, je pense, ont sauté cette case grande surface et sont directement allés vers du conseil, parce qu'ils se sont rendus compte que ça leur faisait du bien de courir, mais que le matériel était un peu un frein, quoi. Donc moi, j'ai eu ce feeling-là. On a perdu un peu une catégorie de clients. On en a gagné une autre. Qui était moins sportive, peut-être un peu plus âgée aussi, pas du tout dans une optique de perf, du tout, et avec un besoin de s'entretenir, de faire du sport, et de rester actif, et puis d'être dehors, quoi. J'ai vraiment ressenti ça.
Donc on peut dire qu'avant, tu avais peut-être le sentiment que c'était vraiment une... pas forcément une communauté élitiste, mais spécialiste vraiment du running qui venait vers toi. Et aujourd'hui, il peut même y avoir des non-initiés de base qui souhaitent vraiment avoir du matériel spécialisé par rapport à ça.
On avait les deux, hein. On avait les deux au démarrage. Il y avait les deux, mais il y avait quand même un curseur monté un peu plus haut sur cette notion de performance, de chaussures dynamiques, de chrono même. Là, aujourd'hui, je trouve qu'on... Enfin, je parle encore une fois dans mon cas, hein, c'est pas le cas dans tous les magasins, dans les grandes villes, il y a encore cette notion-là. Moi, je suis en province et il y a un petit peu moins cette notion de compétition, de performance, de chaussures qui permettent d'aller chercher de la performance. C'est vraiment des gens qui viennent dans une optique de confort, de se préserver, de ne pas se blesser. Il y a vraiment plus ça. Et puis après, ça a glissé aussi vers la marche nordique, la rando légère. On va pas du tout courir, on va juste marcher. Moi, je vis à Compiègne, il y a une très belle forêt, donc ça va marcher en forêt. Et puis ça symbolise aussi le magasin. À la base, ça s'appelait Top Performance, Top Perf. Et puis on a changé le nom en 2020. Donc juste avant le Covid, c'est pas lié au Covid, c'était déjà prévu comme ça. Mais le magasin s'appelle maintenant Artisan du Running pour donner l'idée qu'en fait c'est ouvert à tout le monde.
À tout le monde, ok.
Voilà. Et Top Perf, c'était un peu excluant. Il y a des gens qui venaient pas parce que ah non mais j'ai pas le niveau pour venir chez toi, mais il y a aucune notion de niveau dans notre approche.
Du coup, cette stratégie de branding, tu penses qu'elle a été presque indispensable justement à redonner.
C'est un très bon timing. Ça c'est clair. Je te dis, c'était pas anticipé, mais ça a été un très très bon timing parce que Covid est passé par là. Quand les gens sont ressortis, je pense que notre magasin, il a été plus facilement identifié comme une boutique ouverte à tout le monde à partir du moment où on a envie de pratiquer le running. Alors qu'avant, ce nom de Top Perf, là, c'était quand même très, très engagé. Donc ouais, non, le timing, il était très bon. Il était très bon. C'est un bon coup de chance, quoi.
Tu parlais aussi d'une différence entre les cibles en fonction de la zone géographique. Et toi, t'as des clients aussi en Île-de-France, enfin, un peu partout. Comment, si tu devais définir ta cible en fonction de la zone géographique, où est-ce que tu trouves les plus grands spécialistes, on va dire, enfin, la clientèle la plus spécialiste et...
C'est compliqué, hein. Je pense que ça dépend beaucoup du magasin, de l'image qu'il va donner à ses consommateurs, à ses clients, à ses cibles. S'il est très très engagé sur de la performance avec une offre chaussures légères, carbone, etc., et que la communication va dans ce sens-là, quelqu'un qui voit ça sur les réseaux sociaux ou autre va se dire ouais, ce magasin-là, j'ai la sensation que si je veux faire un chrono sur 10 km, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Il y a d'autres magasins qui vont avoir une approche plus ciblée sur le trail. Donc là, bah, quelqu'un qui est plus adepte des courses en nature ou en montagne va se dire ouais, c'est là-bas qu'il faut que j'aille parce que l'offre va être plus complète, puis je vais parler la même langue. Le magasin, il fait un peu son choix stratégique dans sa communication, avec le risque que ce soit excluant, comme je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, en effet, dans les grandes villes, je pense qu'il y a une propension plus importante à porter des chaussures, carbone, à aller chercher de la performance, à être peut-être aussi plus sensible à la communication des marques sur leurs sorties produits, etc. Moi, alors que je suis à 80 km de Paris, il y a déjà plus beaucoup ça, quoi. Donc ça, et puis j'ai pas la volonté de communiquer à une seule cible, quoi. Voilà, ici chez nous, quand tu rentres dans le magasin, tu vas avoir toute typologie de produits pour toute typologie de coureurs et toute typologie de chrono ou pas chrono, parce qu'il y a des gens qui n'en font pas et qui n'en veulent pas en faire. Donc ça, c'est voilà, c'est mon choix, c'est de toucher un peu tous les profils coureurs, quoi, qui est pas personne ne soit lésé, de se dire mais là je veux recommencer à courir, je fais 90 kilos, je veux arrêter de fumer ou je me marie l'été prochain. Mais un magasin comme ça, c'est pas fait pour moi. Mais en fait, si, complètement. Mais il y a certains magasins dans leur communication qui vont...
Ils sont excluants, entre guillemets.
Entre guillemets, okay. Ouais. Ouais, je trouve.
Mais en 17 ans d'activité, tu as dû voir beaucoup de choses. Et comment... Quelle vision tu as sur l'évolution en 17 ans d'activité, l'évolution du running de manière globale ?
L'évolution, elle est cyclique. Hein. Ça fait un peu vieux de dire ça, mais c'est le running avant, il était quand même guidé par la perf. C'est-à-dire que tu avais quand même le 10 km, le semi-marathon, le marathon. Il y avait des personnes qui s'entraînaient pour ça, qui s'entraînaient dans un but d'un chrono. Il y avait une telle émulation, une telle population dans les pelotons qu'il y avait quand même une notion de performance qui était importante. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Maintenant, pour la plupart des gens qui courent, l'important, c'est de finir la course. Tu vois, on a vraiment cette notion de finisher, que ce soit sur la route, que ce soit sur le trail, qui est beaucoup plus présente et qui n'existait pas du tout quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, il y avait quelques chaussures de trail, mais c'était vraiment... c'était très rare, quoi. C'était des gens qui faisaient des courses de dingue, le marathon des sables au Maroc, et vraiment des grosses courses, mais... Personne achetait des chaussures de trail pour courir en forêt de Compiègne, par exemple, tu vois, par chez moi. Là, aujourd'hui, l'offre, elle n'est pas de 50-50, mais presque. Okay. Donc, le trail, ça a vraiment été l'axe de développement de toutes les marques. Mais ça, c'est clair et net. C'est-à-dire que ça a permis aussi aux gens de dire, ben, c'est cool parce que le trail, ça ne nécessite pas forcément de parler chrono. L'important, c'est d'avoir fait ce trail, quoi, de cocher la case, quoi. J'ai fait le marathon du Mont-Blanc, les Templiers, toutes ces grandes courses-là, je les ai faites. Et en fait, l'important, c'est de l'avoir faite, quoi. Y a pas de... On ne demande jamais le chrono de quelqu'un qui a fait les Templiers. On le demande rarement. Ce n'est pas hyper important. Donc ça, l'évolution numéro un, pour moi, c'est ça. Alors forcément, le niveau aussi en course à pied, il a baissé. Parce que y a une couche de population qui a quitté ce créneau-là pour aller sur des choses beaucoup plus... on va dire le trail, ce qui est intéressant, c'est que tu vois des coins de la France qui sont superbes, avec des paysages, avec tout ça. Tu vas aller en Bretagne, tu vas voir les Pyrénées, tu vas voir. Ça, c'est beau. Tu as un côté un peu tourisme par la course à pied, pas tourisme dans le côté mais tourisme parce que tu visites des endroits qui sont incroyables. Donc, ça, c'est super, c'est la belle évolution. Après, il y a des choses qui sont sorties de terre, les courses à obstacles, les color runs. Voilà, il y a plein de trucs, le swim run, il y a plein de choses qui sont sorties comme ça, qui sont un peu éphémères. Ça dure un temps et puis ça s'en va. Mais et là, je pense qu'on est plutôt sur plus de gens courent pour l'entretien sans avoir forcément d'envie de faire des courses plus que ça. Peut-être qu'ils vont s'y mettre s'ils sentent qu'ils commencent à être un peu à l'aise et pourquoi pas se fixer un défi. Mais en tout cas, c'est moins la norme. Je pense qu'il y a eu un peu une intoxication de courses, quoi. Il y a eu trop de courses. Trop de courses. C'est-à-dire qu'il y en a tout le temps, toutes les semaines, partout. Et c'est un peu trop. Peut-être qu'il en faut un peu moins, des courses plus quali. Et il y a certains de nos clients qui mettaient des budgets pour leur dossard qui étaient juste énormes. Et ça, par le passé, ce n'était pas le cas. Un coureur un peu régulier se fixait de 10 km, un semi pour préparer un marathon. Et puis ça, c'était sa saison, quoi. Avec des entraînements spécifiques, avec une préparation. Et là, maintenant, je trouve que les gens enchaînent les courses, énormément, quoi.
Mais justement, tu as parlé aussi de ce côté éphémère de certaines des activités qui ont évolué. Est-ce que plus globalement, l'engouement, tu le vois aussi comme quelque chose d'éphémère ou pas forcément?
Bah, j'espère pas, honnêtement, parce que le fait que les gens courent, bougent, fassent du sport, c'est top. Il faut les accompagner dans ce sens-là. Je pense que c'est bon pour les magasins, si on pense vraiment directement à nous et au marché du running. Mais d'un point de vue santé, c'est top. Donc il faut que les gens continuent à pratiquer. Après, je pense que ce qui va dépendre, c'est aussi ce que vont offrir les clubs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu demandeurs de conseils, d'accompagnement. Et ça va dépendre beaucoup de ce que les clubs vont leur proposer comme accompagnement. Les fondamentaux de la course à pied, l'apprentissage de la course à pied, comment courir correctement. La course à pied, souvent les gens viennent acheter des chaussures et c'est la chaussure qui doit faire le job presque. Mais courir, ça s'apprend, quoi.
Ça s'apprend, ouais.
On nage, on sait nager, mais si tu n'apprends pas à nager, tu nages pas bien. Donc s'il s'agit de nager longtemps, ça va pas le faire ou tu vas te faire mal ou ça va pas être efficace. C'est pareil en course à pied. Donc aujourd'hui, je pense, pas dans toutes les villes, mais dans les villes, je pense qu'il serait intéressant que les clubs comprennent qu'il y a beaucoup de gens qui courent, qui ne sont pas licenciés, et que potentiellement, ils pourraient être intéressés à prendre une licence pour apprendre à courir. Pas faire de compète forcément, mais juste déjà courir de manière un peu souple, leur éviter des blessures, parce qu'il n'y a pas que la chaussure qui peut éviter la blessure, quoi.
Ok. Et tu disais aussi que aujourd'hui, il y a presque des courses tous les week-ends. C'est aussi une stratégie de beaucoup de marques de développer leurs propres courses. Donc déjà, est-ce que toi, tu accompagnes ces marques-là sur le développement de leurs courses et comment ça s'opère en termes d'objectifs, de stratégie marketing?
En fait, la prise de parole des marques sur les courses, elle a un peu évolué. C'est-à-dire qu'avant, le prisme, c'était le magasin. C'est-à-dire que la marque donnait au magasin des outils de communication pour avoir un peu de branding, de visibilité du logo sur la course. Ils ont un peu enlevé tout ça. Maintenant, tu as raison, il y a de plus en plus de courses qui créent leur propre... De marques, par contre, qui créent leur propre course. Ou en tout cas, événement qui permet de ramener des gens, de parler de la sortie d'un produit, de parler directement avec eux. Ils ont la sensation que c'est plus efficace. C'est possible que ce le soit, honnêtement. Mais c'est pas... C'est au détriment des magasins, ça, je trouve, tu vois. Là, pour le coup, c'est mon côté double casquette qui parle, mais les magasins n'ont plus trop de moyens d'accompagner ces courses locales par le biais du support technique matériel des marques. Les marques font beaucoup leurs actions elles-mêmes. De temps en temps, elles convient un magasin, mais c'est pas toujours. En l'occurrence, c'est surtout dans les grandes villes. Mais elles y vont directement à destination des consommateurs qui aiment bien leur marque, qui sont peut-être des suiveurs sur les réseaux sociaux, etc., ou qui portent déjà la marque. Dire on sort tel produit, on se rejoint à tel endroit, on va le tester, on va vivre un moment un peu différent, un peu quali. Ça, c'est sympa. C'est des actions marketing qui se font de plus en plus. Mais ça passe plus trop par le magasin.
Ouais. Et ça, juste, ça ne passe plus trop par le magasin, justement. Mais est-ce que, à ton avis, c'est aussi pour développer peut-être ce sentiment d'appartenance pour les communautés de ces marques-là? Est-ce que c'est l'objectif
Ouais, clairement. Okay. Clairement, c'est de recruter des consommateurs de manière durable. Avant, on va dire qu'une personne rentre dans un magasin et dit il me faut un produit, il me faut une chaussure. Donc là, je m'en remets à vous, quoi. Après, quelqu'un qui teste un produit, l'aime bien, la marque fait tout pour fidéliser et se soustrait un petit peu du magasin dans ce cadre-là. Pour dire, on est une communauté, une famille, on porte ces produits-là, on court de telle manière, on crée des événements avec cette attitude qui est la nôtre. Donc, suivez-nous, puis restez dans cette dynamique-là. Donc, quasi toutes les marques ont mis en place des tours comme ça un peu partout en France pour aller à la rencontre de leurs clients, de leurs consommateurs. Et c'est plutôt une très bonne chose, honnêtement. Mais encore une fois, le côté casquette gérant magasin te dit, ouais, avant, ça passait par les magasins. Ouais. Donc on parlait à la communauté de clients du magasin, et puis on faisait une action très ciblée qui au final profitait au magasin et donc par rebond à la marque. Et là, quand la marque fait ces actions-là, on ne sait pas après qui profite de cette action. Ouais. Tu vois.
Okay. Donc en gros, les magasins sont moins dans l'équation. Okay. Ouais.
Et, clairement.
Tu disais aussi que paradoxalement, le running, c'est une activité qui a nettement évolué dans le bon sens. Il y a de plus en plus d'adeptes, mais le niveau aussi fait que comme il y a plus d'adeptes, donc il y a plus d'amateurs, et il a peut-être baissé. Mais pourtant, les technologies se sont améliorées énormément. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi par rapport aux différentes technologies qui ont été créées?
Ouais. Bah, la recherche de la performance, ça intéresse les marques parce que c'est un peu la vitrine, quoi. C'est-à-dire que les athlètes qui sont dans le développement de ces produits-là, et notamment le carbone, ça a été démocratisé par Nike avec la volonté de trouver la chaussure qui peut permettre un jour de faire descendre un coureur sous les 2 euros marathon, avec une quête qui est quasiment... Ben, tu vois, c'est très, très... ils sont omnibulés par ça. Mmh. Donc, à mettre toutes les conditions réunies pour que, à la fois en termes de vent, en termes de parcours le plus plat possible, avec des pacers, donc des meneurs d'allure qui sont les meilleurs coureurs mondiaux, de mettre ce coureur dans les meilleures conditions, donc aussi par les chaussures, par le textile, par... Là, on pousse tout ça au maximum, la nutrition aussi. Donc ça, c'est super parce que c'est une vitrine. Mmh. Quelqu'un qui adore la course à pied, moi, le premier, j'ai regardé ça un peu... voilà, c'est passionnant à suivre. Maintenant, ça ne correspond pas à grand monde en réalité. Là, tu es vraiment sur le haut de la pyramide. Ouais. Ça concerne quelques athlètes peut-être dans le monde seulement. Mais ces chaussures-là, quoi qu'il arrive, elles sont fascinantes pour quelqu'un qui court régulièrement et qui est quand même dans un désir de descendre son chrono le plus bas possible parce qu'il est passionné de la course à pied, c'est son sport. Mmh. Au même titre que, on parle même plus de course à pied, on parle d'athlétisme pour moi. Quand t'es, voilà, tu passes dans la catégorie athlée quand ton objectif, c'est de descendre ton chrono. Si ton objectif n'est pas là, pour moi, tu fais du running.
Ouais.
Tu vois, okay. Je distingue un peu les deux. Donc le carbone, c'est un petit peu comme porter des pointes en athlétisme. Maintenant, les pointes ont aussi du carbone. Et puis comme dans tout sport, en fait, à partir du moment où tu as une évolution matérielle qui amène des améliorations des performances, bah ça crée un phénomène, quoi. Donc ça, c'est très bien. Moi, je trouve ça vraiment génial. J'aime bien que les produits soient innovants, que ça fasse parler. C'est top. Maintenant, l'effet un peu pervers de ça, entre guillemets, c'est que n'importe qui peut se dire, mais si je veux courir plus vite, il me faut juste ces chaussures. Ouais. Et non, là, ça va plus. C'est-à-dire que il y a énormément de gens qui consomment ces produits-là et qui se disent, mais attends, je vais acheter ça. Ça vaut 200, 250, 300 euros pour certains modèles, ce qui est énorme. Mais je veux pas plus vite que ça. En plus, je me suis blessé. Donc, parce que tout simplement, ces produits-là, ils sont à destination de coureurs qui sont à une vitesse moyenne. Haute, et en fait ça fait du sens que si tu sais emmener ces chaussures là donc si t'es un jogger et puis tu dis tiens je voudrais voir ce que ça fait, honnêtement il n'y a aucun intérêt, il vaut mieux garder son argent et s'acheter une bonne paire pour la prochaine fois, mais c'est pas adapté en fait. Et donc les marques comme ça, en faisant ça, bon, c'est aussi leur but hein, elles sont là pour vendre des chaussures, mais le coureur a fait un peu l'amalgame, quoi.
Okay.
Donc c'est des produits d'élite, mais qui doivent quand même rester à l'élite. Les marques ont sorti des produits carbone un petit peu plus faciles d'accès, un petit peu plus souples, donc ok, mais ça reste quand même des produits pas donnés. Et puis au final, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, quoi? Moi, ça, je me pose toujours un peu la question, honnêtement.
Ok. Et on a parlé de running, tu nous as parlé aussi de basket. Est-ce qu'il y a d'autres sports que tu cibles ou sur lesquels tu te positionnes, et est-ce qu'il y a d'autres sports sur lesquels tu aimerais te positionner à l'avenir?
J'ai travaillé pas mal le sport outdoor, le ski aussi quand j'étais chez Salomon. C'est des sports qui me plaisent aussi parce que je les pratique et ça me parle. J'étais sur le salon sport achat à Lyon les deux derniers jours. Ça parle essentiellement de ces catégories de sports. C'est des sports qui me plaisent, que je cible aussi indirectement, mais il faut pas non plus prendre un nombre de cartes indéfini, il faut savoir les travailler correctement. Mais s'il y a une évolution à trouver, en tout cas dans le catalogue des marques, quoi, ça serait vers ces sports-là.
Ok. Et dans ton activité, tu penses qu'il faut nécessairement connaître la discipline pour...
Bah c'est mieux. C'est mieux parce que tu parles la même langue, quoi. Je pense qu'un magasin vraiment spécialisé, passionné de son sport, si, quand il a quelqu'un qui rentre, il sent très très vite que tu maîtrises ou tu maîtrises pas le sujet, quoi. Donc moi, le fait d'amener des marques running dans des magasins running, j'ai une crédibilité peut-être différente du fait d'avoir ouvert ce magasin, vécu toute cette évolution, ouais. Et le fait de gérer les deux, ça me donne à mon avis une image un petit peu différente. Mais alors que j'ai jamais été un runner, moi je suis pas un runner, j'ai toujours fait de l'athlé, la piste au maximum 1500 mètres, tu vois, okay. C'est vraiment, je suis pas un runner, j'ai jamais été et j'ai jamais fait comme si. Mais il y a en tout cas la connaissance de tout l'univers parce que du coup ça fait 17 ans que je suis là-dedans et que je suis passé là où ils sont en train de passer. Donc il y a beaucoup de magasins avec lesquels il y a beaucoup d'échanges, conseils, un peu coaching sur les erreurs à pas faire, etc. Mais je pense que c'est important en rentrant dans un magasin en tout cas d'être crédible. Donc même si c'est pas ton sport de prédilection, faut en tout cas vraiment se former.
Okay.
La marque de nutrition pour laquelle j'ai été chef des ventes, on a fait une formation sur la micronutrition qui était très poussée parce que tu dois quand même un peu montrer que tu
sais
connais
de quoi tu parles. Okay.
Parce que si t'as en face de toi quelqu'un, et c'est déjà arrivé, un gérant de magasin, sa femme est nutritionniste, tu vois, et que tu racontes des trucs, lui il en reparle à sa femme le soir, c'est n'importe quoi. Mm. Donc moi en tout cas je l'imagine que comme ça, quoi. Demain, j'ai toujours dit ça moi à mon entourage, demain on me demande de vendre des alarmes, des fenêtres ou quoi, je crois que je saurais pas le faire, c'est pas mon univers, c'est ça me passionne bien. Absolument pas, donc ouais, je pense que c'est important.
Ok, et pour conclure ce podcast, sur quel type d'activité tu seras en 2023 et à l'avenir?
Bah, déjà, le développement des marques que j'ai aujourd'hui. Peak, c'est une marque qui a un énorme potentiel et qui est encore trop méconnue en France. C'est une marque qui fait partie des 5 plus grosses au monde dans le rayon, dans le segment du basket.
Okay.
T'as des grosses, grosses marques majeures qui sont là et Peak est un peu un outsider en Europe. Donc, il y a un gros, gros travail de notoriété à faire. Et puis le développement des rayons basket, parce que le basket c'est un sport majeur qui est pratiqué par énormément de monde, c'est le troisième sport en nombre de licenciés. Mmh. Mais la diffusion des produits basket, elle est encore très faible par rapport au running par exemple. Il y a 10 fois moins de magasins en France de basket, okay, que de running en spécialiste. Donc Peak a un gros gros travail mais un énorme potentiel aussi. Diadora, qui est une marque historique européenne avec beaucoup d'histoires et de choses à raconter. En France, elle est très, très peu connue. Donc, c'est pareil, il y a un gros, gros travail. Donc, il y a déjà de continuer le travail qui est effectué depuis 4 ans, de continuer sur la progression de ces marques-là. Et puis après, on est toujours ouvert aux opportunités. Et puis, il y a toujours ces projets de marketing et d'événementiel qui sont là. Le Up and Down, qui est une course que j'ai créée il y a 10 ans. Bah, du coup, c'est l'anniversaire des 10 ans, donc on va le refaire cette année.
Okay.
Donc, il y a toujours beaucoup de choses. On ne va pas s'ennuyer en 2023, c'est sûr.
J'espère. En tout cas, merci à toi, Benoît, d'avoir accepté l'invitation.
Merci à toi.
Et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain épisode du Business Club. À bientôt.